My beloved brothers and sisters,
chers frères et sœurs, comme je suis reconnaissant d'être avec vous ce soir. Comme vous, j'étais inspiré, édifié par le discours du président Haring et du président Urdorf, ainsi que par la magnifique musique interprétée par le chœur et l'orchestre. Une phrase que nous chantons dans l'un de nos cantiques contient une vérité. Le temps passe aussi vite que l'éclair. Encore une année de passé, et nous revoici à la période de Noël. Récemment, je me suis remémoré les Noëls passés, et je me suis rendu compte que probablement aucun autre moment de l'année ne procure de souvenirs aussi poignants que Noël. Les Noëls dont nous nous souvenons le mieux ont généralement peu à voir avec les biens matériels, mais beaucoup à voir avec la famille, l'amour, la compassion et la sollicitude. Cette pensée donne de l'espoir à ceux d'entre nous qui craignent que la signification simple de cette fête disparaisse face au mercantilisme, à l'opposition de gens d'autres opinions religieuses, ou bien tout simplement parce que nous sommes si pris par les pressions de cette période que nous en perdons l'esprit tout particulier que nous pourrions ressentir autrement. Beaucoup de gens en font souvent trop en cette période de l'année. Nous pouvons en faire trop pour le temps et l'énergie dont nous disposons. Peut-être n'avons-nous pas assez d'argent à dépenser pour ce qui nous semble nécessaire d'acheter. Souvent, les efforts de la période de Noël nous laissent stressés, lessivés et épuisés, alors que nous devrions ressentir les joies simples de la commémoration de la naissance du nouveau-né de Bethléem. Malgré tout, en général, l'esprit tout particulier de cette période réussit à se manifester dans notre cœur et dans notre vie, malgré les difficultés et les distractions qui peuvent prendre notre temps et notre énergie. Il y a de nombreuses années, j'ai lu ce qui s'est passé à Noël quand des milliers de voyageurs fatigués se sont trouvés bloqués à l'aéroport bondé d'Atlanta en Géorgie. Le grésil avait gravement retardé la circulation aérienne et les passagers essayaient de se rendre là où ils voulaient le plus se trouver pour Noël, très probablement dans leur foyer. C'était en décembre 1970. Quand les 12 coups de minuit ont sonné, les passagers mécontents se sont massés autour des comptoirs de la compagnie, échangeant des propos vifs avec les agents dont le sourire s'était depuis longtemps volatilisé. Eux aussi voulaient être chez eux. Quelques personnes réussissaient à somnoler sur des sièges inconfortables. D'autres étaient rassemblés dans des kiosques pour feuilleter silencieusement des livres de poche. S'il existait un trait commun entre les individus de cette foule bigarrée, c'était la solitude. Une solitude envahissante, inéluctable, étouffante. Mais dans cet aéroport, les convenances exigeaient que chaque voyageur préserve sa barrière invisible entre lui et les autres. Il valait mieux être seul que s'impliquer, ce qui aurait signifié inévitablement écouter les récriminations d'autres passagers moroses et découragés. En fait, il y avait plus de passagers que de places disponibles dans chacun des avions. Quand parfois un avion réussissait à décoller, il restait plus de voyageurs en attente que de voyageurs qui avaient embarqué. Les mots « stand-by », « réservation confirmée » et « passagers de première classe » réglaient les priorités et indiquaient qu'on avait de l'argent, du pouvoir, de l'influence, de la prévoyance ou qu'on n'en avait pas. La porte 67 était un microcosme de l'ensemble de l'aéroport caverneux d'Atlanta. Cette enceinte vitrée, exiguë, était bondée de voyageurs qui espéraient se rendre à la Nouvelle-Orléans, à Dallas ou à d'autres destinations à l'ouest. À l'exception de quelques personnes qui avaient la chance de voyager à deux, il y avait peu de conversations à la porte 67. Un représentant de commerce, comme résigné, regardait en l'air d'un air vide. Une jeune mère serrait son bébé dans ses bras, le berçant doucement, en essayant vainement de calmer ses gémissements. Il y avait aussi un homme vêtu d'un costume de flanelle grise, de coupe élégante, qui semblait insensible à la souffrance collective. Il y avait une certaine indifférence dans sa façon d'être. Il était absorbé dans des papiers. Peut-être calculait-il les bénéfices de fin d'année de sa société. Un voyageur, au nerf à vif, assis non loin de lui, en observant cet homme occupé, aurait pu le prendre pour Ebenezer Scrooge. Soudain, le silence relatif a été brisé par un vacarme. Un jeune homme en uniforme militaire, qui ne devait pas avoir plus de 19 ans, était en conversation animée avec l'agent au comptoir. Le jeune homme avait un billet non prioritaire à la main. Il suppliait l'agent de laisser embarquer par Nouvelle-Orléans afin d'y prendre le car pour l'obscur village de Louisiane où il habitait. L'agent lui dit d'un ton las que les perspectives étaient peu encourageantes pour les prochaines 24 heures, peut-être pour plus longtemps. Le jeune homme paniquait. Aussitôt après Noël, son unité allait être envoyée au Vietnam, où à l'époque la guerre faisait rage. Et s'il ne prenait pas ce vol, il risquait de ne plus passer un Noël chez lui. L'homme d'affaires lui-même leva les yeux de ses mystérieux calculs et montra un intérêt retenu. L'agent était manifestement ému et même un peu gêné, mais il ne pouvait offrir que de la sympathie, pas d'espoir. Le militaire au comptoir de départ jetait des regards angoissés dans la salle bondée, comme s'il y cherchait un visage amical. Finalement, l'agent annonça que le vol était prêt pour l'embarquement. Les passagers, qui avaient attendu de longues heures, se levèrent, rassemblèrent leurs affaires et prirent lentement le couloir vers l'avion qui attendait. 20, 30, 100, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. L'agent se tourna vers le jeune soldat désespéré et haussa les épaules. Sans qu'on sache pourquoi, l'homme d'affaires était resté en arrière. Il s'avança et dit discrètement à l'agent, « J'ai un billet confirmé. Je voudrais donner ma place à ce jeune homme. » L'agent le fixa, incrédule, puis fit signe au soldat. Incapable de parler, le visage baigné de larmes, le garçon, en costume kaki, serra la main de l'homme au costume de flanelle grise, qui se contenta de murmurer, « Bonne chance. Passez un joyeux Noël. Bonne chance. » Quand la porte de l'avion se ferma et les commoteurs commencèrent à vrombir, l'homme d'affaires fit demi-tour, saisit son attaché-caisse et se dirigea vers le restaurant ouvert toute la nuit. Seules quelques rares personnes parmi les milliers bloquées à l'aéroport d'Atlanta furent témoins de la scène qui se joua à la porte 67. Mais pour celles qui la virent, toute l'atmosphère maussade de frustration et d'hostilité fit place à la lumière. Cet acte d'amour et de bonté entre inconnus avait porté l'esprit de Noël dans leur cœur. Les lumières de l'avion qui partait clignotaient comme des étoiles, tandis que l'appareil se fondait dans la nuit. Le bébé dormait maintenant en silence sur les genoux de la jeune mère. Peut-être un autre vol partira-t-il dans pas trop longtemps. Mais les témoins de ce qui s'était passé étaient moins impatients. La lumière continuait de briller, douce et omniprésente, dans la petite étable de verre et de plastique de la porte 67. Mes frères et sœurs ne trouvent pas la véritable joie de Noël en courant et se précipitant pour faire davantage ou en achetant les cadeaux obligatoires. La véritable joie se trouve en faisant preuve d'amour et de compassion inspirée par le Sauveur du monde qui a dit « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. » En cette période joyeuse, puissent les discordes personnelles s'oublier et les animosités guérir. Puissions-nous, dans la joie de cette période, nous souvenir des nécessiteux et des affligés. Puissions-nous pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, tout comme nous espérons recevoir le pardon. Puisse la bonté abonder dans notre cœur et l'amour régner dans notre foyer. En réfléchissant à la manière dont nous allons dépenser notre argent pour acheter des cadeaux en ce Noël, planifions aussi comment nous allons passer notre temps pour contribuer à apporter le véritable esprit de Noël aux autres. Le Sauveur a donné généreusement à tous, et ses dons étaient d'une valeur incommensurable. Tout au long de son ministère, il a béni les malades, a rendu la vue aux aveugles, lui aux sourds, et a fait marcher les paralytiques et les infirmes. Il a rendu la pureté aux impurs, il a rendu le souffle de vie aux morts, il a donné l'espérance à ceux qui n'en avaient pas, et a déversé la lumière dans les ténèbres. Il nous a donné son amour, son service et sa vie. Quel est l'esprit que nous ressentons au moment de Noël? C'est son esprit, l'esprit du Christ. Dans le silence de la nuit, fut fait ce don divin. Ainsi, simplement et sans bruit, Dieu bénit les humains. Nul n'entend sa venue dans ce monde pécheur. Mais Jésus entre, bienvenu, dans les plus humbles cœurs. Avec l'amour pur du Christ, marchons sur ses pas, à l'approche de la période de célébration de sa naissance. En le faisant, souvenons-nous qu'il continue de vivre et d'être la lumière du monde qui a promis. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. À chacun de vous, mes frères et sœurs, j'exprime mon amour et je donne ma bénédiction. Je vous souhaite un merveilleux Noël. Que l'amour, la bonté et la paix règnent dans votre cœur et dans votre foyer. Que ceux qui ont le cœur lourd trouvent la guérison que seul procure celui qui console et rassure. Avec l'Esprit du Christ dans notre vie, nous serons de bonne volonté et éprouverons de l'amour à l'égard de tout le genre humain, non seulement cette période, mais aussi tout au long de l'année. Puissions-nous connaître cette bénédiction. C'est là ma prière. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen.